Avant-Pourim, début du mois d'Adar, on collecte le martsita shekel. Alors, c'est une collecte pour abonder un fonds, une caisse donc. Et cette caisse, elle va servir en particulier pour acheter les korbanot tzibour. Quand le tzibour doit apporter un korban, par exemple, tous les jours, on apporte un korban tamid, matin et soir, matin et après-midi, ou Yom Tov, ou Shabbat, on apporte un korban au nom du tzibour. Le tzibour, c'est une notion un peu compliqué, donc on a déjà parlé un peu. C'est-à-dire, le tzibour, ça représente tout le clan Israël, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit du clan Israël, mais il ne s'agit pas de la somme des éléments qui le constituent. En d'autres termes, si le clan Israël achète avec la contribution de chacun un animal, cet animal-là ne sera pas, ne pourra pas être offert comme un corban tzibour, parce qu'il sera le corban des choutafim, un corban d'associés, l'association étant gigantesque, elle comprend tout le monde, tous les bnei Israël, mais c'est un corban tzibour, c'est pas un corban tzibour, c'est un corban chez choutafim d'associés. Nous, on veut un korban tzibour. C'est pourquoi ce korban, il va être acheté avec de l'argent qui, bien entendu, provient des bnei Israël, puisque chacun a la mitzvah d'apporter un demi-shekel, qu'on soit riche ou pauvre, chacun apporte la même contribution. Mais ça devient, si vous voulez, complètement anonyme. C'est comme si on abandonnait cet argent. C'est pas Toto qui met l'argent dans, qui met son demi-shekel. C'est, il a mis le, quelqu'un a mis le demi-shekel. Alors, tout le monde a dû le mettre, mais tout le monde l'a mis. Mais voilà. Et donc, ça devient une caisse complètement anonyme. Anonyme, ça va permettre d'acheter les korbanot pour justement le clan Israël, pour ce clan Israël qui forme, ce clan Israël, c'est une entité abstraite qui est en quelque sorte animée, habitée régulièrement par les différentes générations, mais c'est toujours la même entité, elle n'est pas liée au temps, elle est intemporelle. Le clan Israël qui apporte un demi-shekel, juste après que la mitzvah soit énoncée, écrite dans la Torah, on nous précise combien c'est un demi-shekel. Et on nous dit que c'est 20 grains. Le grain, c'est un grain d'argent qui a le volume d'un grain de céréales, d'orge ou de blé, je ne m'en fais plus. Et donc, 20 grains, cela, ça permet de donner une définition concrète de ce que c'est que un shekel. Pardon? Non, shekel, c'est de l'argent.
Non, c'est 20 grains. Ah, d'orge.
D'orge, éventuellement. Non, ce n'est pas des vins d'or. Des vins d'or pour faire de l'argent. L'argent, c'est... D'orge ou de blé, je ne m'en rappelle plus du tout. Et donc, l'intérêt ici, ce qui est important, pourquoi on nous raconte juste à cet endroit-là, on nous dit pourquoi c'est, qu'on nous dit que c'est vin, on a déjà utilisé Shekel HaKodesh, on en parle tout le temps. Pourquoi c'est là qu'on a mis qu'on a mis une définition? Parce que le gros avantage, c'est que, comme vous savez depuis relativement longtemps, que quand on divise 20 par 2, on obtient 10. Bon, je n'ai pas venu pour entendre ça, mais quand on en a 10, le 10 a un grand avantage, c'est que 10, ça forme une entité. 10, on est dans la Torah, on a un système décimal, clairement. Il y a rarement, de temps en temps, on nous parle aussi de 12 tribus et des choses comme ça, mais essentiellement, c'est un. Et pourquoi c'est décimal? Alors, dans le Sefer Tzira, c'est écrit que c'est décimal parce qu'on a 10 doigts et 10 doigts aux mains et aux pieds. Et donc, c'est pour ça que le 10 joue un rôle tellement important dans la Torah. Mais c'est très important parce que ça veut dire que bien que chacun mette un demi shekel, par conséquent, on comprend très bien que pour faire un shekel, il faut se mettre à deux. Donc ça fabrique de l'unité, quoi. Ça impose de l'unité, mais en même temps, les deux parties qui se mettent ensemble sont chacune un. C'est-à-dire c'est une dizaine. Donc c'est déjà une entité pour soi. Si vous laissez plutôt 2 fois 1 que 2 fois 1 demi, bien que ce soit énoncé sous la forme 2 fois 1 demi shekel. Alors pourquoi est-ce que c'est important que ce soit un? Parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la situation suivante. Yom Tov, il y a une caractéristique que le jour de Yom Tov, c'est un jour qui doit être Hatzil Hashem ve Hatzil Lachem. Moitié pour Hachem et moitié pour vous, pour les Bnei Israël. C'est-à-dire, c'est un jour qui est consacré pour moitié, disons, à la prière, à l'étude, et pour moitié à manger, à boire, à se réjouir. Moitié, moitié. Et ça, c'est vrai pour tous les Yamim Tovim, pour Pessah, pour Shavuot, pour Sukkot, pour Rosh Hashanah, oui, même Rosh Hashanah, mais pas pour Yom Kippour. Comme vous savez, dans Yom Kippour, la partie manger, boire et se réjouir, elle est absente. Alors, le problème, c'est est-ce que on a là Yom Kippour, c'est un Yom Tov. Bon, c'est pas Tisha B'Av, Yom Kippour. C'est un Yom Tov. Donc il y a lieu d'une certaine manière, de se réjouir. Alors se réjouir un peu dans une certaine discipline. On ne peut pas se laisser autant aller Yom Kippour qu'un autre Yom Tov. Mais bon, mais voilà. C'est Yom Tov et pourtant, il n'y a pas Hatzil Hachem. Il manque un Hatzil Hachem. Alors, il y a un Zohar, un texte du Zohar, et le Zohar, il met sur le même plan Yom Kippour et Yom Kippourim et Yom Pourim. Alors, Pourim et Kippourim sont mis sur le même plan. Alors, a priori, c'est un peu surprenant, parce que Yom Kippour, c'est Minatora. Et Pourim, c'est Midrabanan, c'est une invention des Rabbanan qui ont décidé d'inventer une fête, bon, qu'ils ont fixée expression de la reconnaissance des Bnei Israël pour quelque chose d'énorme qui s'est passé, c'est-à-dire les Bnei Israël dans le deuxième, dans le Galout Madaï. Le galout chez les Mèdes, Mèdes et les Perses, soit Achashverosh, le Bnei Israël a été en fait menacé d'une solution finale. Le grand vizir, Aman, n'avait pas supporté que lui qui avait réussi, ça a l'air complètement fou, mais il a réussi à faire en sorte que tout le monde doive se prosterner sur son passage. Et tout le monde se prosterne. Mais il y en a un là-bas, tout au fond, là, au fond de la cour, reste debout. Un provocateur. Pas dans tout régime autoritaire qui se respecte, on l'aurait fusillé, point barre. Non, Haman, il ne va pas le fusiller. Il va quand même pas s'abaisser à tuer une seule personne. Il fait son enquête et il apprend que ce bonhomme-là, c'est un juif. Bon. Et donc il décide de tuer tous les juifs. Qui? Ah, yeah, mais oui, mais toujours ce même problème. Ah, voilà, peut-être que là, maybe. Si, ah, voilà, la veille, ouais.
C'est possible.
Où ça, non, c'est Mademoiselle Tannenbaum.
Ah, c'est Anaïs.
Ouais.
Bonsoir Anaïs. Bonsoir.
Voilà, Raya. Raya est entrée, c'est bon.
Merci beaucoup, bonsoir. Excusez-moi.
Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Ok. Donc il a décidé de tuer tout le monde, hommes, femmes, enfants, le même jour. Il a tiré au sort, il a fait tout un cinéma. Et donc les Juifs sont exposés à une solution finale. Et comme ils en ont été sauvés, ça s'est soldé par ses remords, il est logique que les Bnei Israël fassent une fête en reconnaissance pour Hachem. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'a priori, on pourrait s'attendre à ce que qu'ils fassent une fête pour Hachem, je sais pas, avec l'action de grâce, etc. Mais là, la fête, c'est une fête avec festin. C'est-à-dire que ils ont pris les méthodes de la cour d'Achashverosh où toutes les questions se réglaient avec des festins. Où toutes les occasions étaient bonnes pour avoir des festins, 180 jours, etc. C'est toujours des festins. Et d'ailleurs, la solution, elle est venue parce que Esther, quand elle décide d'intervenir, viendra, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose non pas un festin, mais tu viens boire un coup, quoi. Elle invite Achashverosh et Aman à venir boire un coup chez elle. Et puis, comme vous savez, Achashverosh lui demande, bon, tu étais venu me demander quelque chose, je suis prêt à te donner la moitié de mon royaume, qu'est-ce que tu veux? Esther, elle pense que le moment n'est pas encore venu, ou elle ne sait pas encore ce qu'elle va demander, comment elle va demander les choses. Alors, qu'est-ce qu'elle demande? Ben, tu reviens demain. Bon, demain, on fait. De nouveau, on boit un coup avec Aman. Bon, vous voyez, tout se règle par des festins, des beuveries, on dirait. Eh bien, on a décidé que pour Purim, il y aurait aussi un festin où on allait boire aussi. Et où le corps va jouer un rôle fondamental. C'est une journée pour le corps, d'une certaine façon. Curieusement, ce n'est pas une journée spirituelle. Curieusement, ce qu'on va faire, c'est des Ben Adam la Chavero. Curieusement, comment ça va se passer, cette journée d'expression de la reconnaissance, Ben, en fabriquant de l'unité et aussi en donnant de la tzedaka et en lisant un texte qui comporte aucune mention du nom divin, de celui auquel on rend grâce ce jour-là pour nous avoir sauvés. On n'en parle pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de Hallel. Tout est pour le corps. Et tout est pour le corps. Et du coup, on entend un peu ce qu'a dit le Zohar. Parce que si on met bout à bout Yom Kippour et Purim, alors on aura une entité formée de deux fois un, parce que ce n'est pas une demi-journée, ce n'est pas Hatzi Lachem et Hatzi Lachem, mais c'est une journée dans laquelle les deux moitiés, comme dans le cas du Marsita Shekel, sont formées par deux entités, et vous avez deux fois un, qui donne une entité, c'est-à-dire si on considère Purim et Kippourim comme une seule fête, un seul jour de fête, eh bien il est moitié-moitié. Moitié Lachem, moitié pour le corps, la moitié Purim, et moitié pour l'esprit, moitié pour pour Hachem, si vous voulez, c'est Yom Kippour. Et donc là aussi, on a non pas deux moitiés, deux fois une demi, mais deux fois un, pour former une unité. On a la même idée que ce qui se passe dans le Marsita Shekel, où on a deux fois 10, deux fois une entité.
Du coup, le jeûne d'Esther, on n'en tient pas compte?
Pardon?
Le jeûne d'Esther, on n'en tient pas compte?
Le
Jeûne. Le jeûne d'Esther.
un jeûne d'Esther, c'est autre chose. C'est pas pour him, d'Esther. C'est vrai, si vous voulez, que dans pour him, et de ce point de vue-là, on peut inclure aussi le Taanit Esther. On a refait les éléments, on a revécu les éléments fondamentaux. Il y a le récit de. C'est un récit un peu trompeur parce que quand on le lit, on a presque l'impression qu'il y a une unité de temps, etc. Mais ça se déroule sur 9 ans. Bon, on ne sait pas que la Megillah se déroule sur 9 ans. Bon, alors, il y a le récit, et puis il y a la démarche d'Esther. Qu'est-ce que Esther a demandé? Elle a demandé que tout le monde jeûne en même temps. Donc, elle a fabriqué de l'unité du clan Israël. Et nous, on fabrique cette unité du clan Israël avec des matanot, non, Ishloach manot ish le re'ehu. On fabrique des relations en s'envoyant des petits cadeaux. Ces cadeaux étant en fait de la nourriture qu'on pourrait intégrer au festin d'Esther, ce qu'on appelle le micheté, parce qu'il y a une mitzvah de faire un micheté, et on peut participer au micheté de l'autre en lui envoyant quelque chose, la condition étant que ce soit immédiatement comestible. Vous ne pouvez pas envoyer un poulet cru à quelqu'un. Vous pouvez lui envoyer, mais ça ne compte pas comme Michel Armanot. Par contre, si vous lui envoyez un poulet grillé, ça compte. Donc, on refait de nouveau l'unité. On rejoue quand Esther a demandé que tout le monde fasse ensemble quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tanit. Ils ont fait un Tanit. Alors, bien sûr, on ne fait pas le Tanit qu'on fait. Ils ont fait 3 jours de Taniot. Nous, on fait tranquillement un jour. Le Mishté, parce que tout s'est déroulé sous forme de Mishté. Et la tzedaka aussi, c'est une façon de fabriquer de l'unité, donner à chacun. Tu me demandes, je te donne. On donne sans regarder. Le reste du temps, on doit quand même regarder à qui on donne. Là, on ne regarde pas tellement à qui on donne. Tu tends la main, on te donne. Donc, on a fabriqué cette unité de Purim et de Kippourim. Alors, en fait, cette idée de moitié, ça fait penser à la situation suivante, dont on a déjà parlé dans son temps. Au moment de la destruction du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, Hazal disent que Yirmiya, il est allé réveiller les avots. Il est allé dire aux avots, faites quelque chose, le Beth Amikdash va être détruit, vos descendants vont être exilés, etc. Faites quelque chose. Avraham et Jacob, ils n'ont rien proposé de très, très intéressant. Mais bon, ils sont mal conduits. Bon. Le seul qui a vraiment réagi, c'est Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il a pris le parti de défendre les Bnei Israël. Il a commencé à négocier avec Hachem en disant que finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Si on compte le nombre de jours, le nombre d'heures dans une journée qu'on passe à dormir, à manger, etc., pendant ce temps-là, ils n'ont rien fait de mal, etc. Et puis après, il reste le résidu. Alors, Yitzhak Avinu a dit à Hachem, écoute, tu prends la moitié, moi je prends la moitié. Prends moi la responsabilité de la moitié, toi tu prends la moitié. Et d'ailleurs, les Bnei Israël, à ce moment-là, quand ils vont apprendre ça, ils vont dire à Yitzhak, toi tu es vraiment notre père. Et d'ailleurs, le jour du jugement, à Rosh Hashanah, le personnage clé de Rosh Hashanah, c'est Yitzhak Avinu. Y compris avec le chauffard qui a à voir avec Yitzhak Avinu, comme vous savez bien. Oui, il pensait que les Bnei Israël, la justice, c'est si Hachem dit qu'ils se conduisent mal, ils sont mal conduits et tout, ben, il faut bien qu'ils payent, on peut pas. Bon, je crois que c'est surtout important pour le fait que c'est Yitzhak Avinu qui est intervenu, quoi. Lui, au nom de la Akedah, au nom de. Etc. Alors, sur cette Agada, il y a un commentaire de Rabbi Yitzhak Blazer. Rabbi Yitzhak Blazer, c'est le grand Talmid de Rabbi Yitzhak, de Rabbi Israël Salanter. Et lui, il a dit que cette discussion-là, ce ce que Yitzhak Avinu a proposé, ça a à voir avec un enseignement de Chachamim qui dit la chose suivante. Les Bnei Israël, quand on les a accusés, ils ont dit « Retsonenu la sot retsonka ». Notre volonté, c'est de faire ta volonté. Elle a, sauf que sort shebeissa, littéralement, le levain dans la pâte, le shibud malchuyot, et la domination des goyim, les exils, mais Akev, ça nous empêche de faire ce que nous voudrions faire, nous voudrions bien faire. Mais ces deux choses-là, Sor Shebeissa et Shibud Malchuyot, c'est trop fort. Notre volonté n'est pas assez forte. Notre volonté de bien faire n'est pas assez forte pour surmonter ces deux obstacles. Sor Shebeissa, c'est le Yetzer Hara qu'a créé. Le Seor, Shebeissa, c'est ça le levain de la pâte. Quelque part, on a besoin dans le monde, on a besoin de ce Yetzer, qui est un Yetzer Hara, mais qu'il faut mettre au service du bien. Mais on a besoin de ce Yetzer-là, c'est pour ça que l'homme a été créé, avec le Yetzer Hara, mais avec le Yetzer Hatov, mais aussi avec le Yetzer Hara. Alors, sur le Seor, Shebeissa, là, Yitzhak dit, ça c'est toi, Hachem. Ça c'est ta part. Ça c'est Palga Alach. Ça c'est ta moitié à toi. C'est toi qui l'as fait, c'est toi qui t'en occupes. Le Shibud Malchuyot, ça c'est moi qui l'ai fait, dit Yitzhak. C'est parce que je me suis trompé avec Essav. Et donc, Palga alai, la moitié est de ma faute. Yom Kippour. Probablement. Yom Kippour, c'est le jour de l'année où le Satan n'a pas le droit d'accuser. Et dans l'année solaire, c'est l'élément impair, le 365, pas le pair. Donc ce jour-là, c'est un jour à part. Il n'a pas la force d'accuser. Donc si vous voulez, il n'y a pas de Yetzer Hara. Donc la pâte, elle ne va pas monter. Elle va Sor Shebeissa, il n'y en a pas ce jour-là, à Kippour. Et à Purim, Nafal Pachad Ayudim. À Purim, les Goïms ont eu peur des Bnei Israël. Parce qu'ils avaient le vizir de l'autre côté, c'est devenu Mordechai. Et il avait ses lettres. Les Bnei Israël ont reçu pour attaquer, l'attaque étant la meilleure défense. Par conséquent, Yom Kippour et Purim, c'est de nouveau ces deux moitiés-là. Palgé Alach, Palgé, la moitié pour Hachem et la moitié pour moi, dit Yitzhak Avinu. La Megillat Esther, de ce point de vue-là, c'est un endroit, enfin, c'est un écrit dans lequel le Esther, la partie cachée de cette volonté profonde d'Ebné Israël, nous voulons vraiment faire ta volonté. Cette volonté profonde, la Megillat d'Esther, elle la dévoile. Elle dévoile qu'au fond, les Bnei Israël voulaient faire la volonté d'Hachem. Et c'est en ça que la Megillat Esther, enfin, pardon, pas la Megillat, mais Pourim, de ce point de vue-là, complète Yom Kippour. Elle complète parce que ça lui apporte la moitié qui manque pour qu'il soit comme tous les Yamim Tovim. Et ça peut compléter parce que chacun des jours correspond effectivement à un des deux problèmes résous, un des deux grands problèmes qui empêche les Bnei Israël de faire ce qu'Hachem veut qu'ils fassent et ce qu'ils ont envie de faire. Eux, ils veulent faire comme Hachem le leur dit. Donc ça, c'est un point commun, si vous voulez, entre Purim et Yom Kippourim. Bien sûr que il y a dans Purim et dans Yom Kippour, il y a encore un autre point absolument fondamental. Un autre point commun fondamental. En fait, dans la Megillah, il est écrit le Kimou à Yehudim, Kiblou à Yehudim, Kimou à Yehudim, pardon. Les Yehudim, les Juifs, ont fait tenir à nouveau, en quelque sorte. Ils ont pris sur eux, à nouveau, ce qu'ils avaient déjà pris une fois. Kimou ma chez Kiblou kvar. Ils ont fait tenir, le kayem, ça veut dire faire tenir, ce qu'ils avaient déjà accepté. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de quelque chose que vous connaissez aussi, de toute manière. Quand Hachem a proposé la Torah aux Bnei Israël, les Bnei Israël ils ont accepté la Torah chez Birtav. Mais la Torah chez Baal Peh, ils ne voulaient pas l'accepter. Alors, à la limite, cette idée qu'ils ne voulaient pas accepter la Torah chez Baal Peh, ça nécessite un peu une explication. Dans les premières louchot, Hachem a donné à Moshe Rabbeinu pour qu'il les apporte au Bnei Israël, mais que Moshe Rabbeinu a brisé au moment du veau d'or. Dans ces premières louchot, il y avait l'écriture d'Aseret HaDibrot, c'est les deux plats, il y avait deux tables, deux tablettes, cinq paroles sur chacune. Et sur ces tablettes étaient écrites, plus exactement, elles étaient gravées, et gravées de part en part, de telle sorte qu'on puisse lire, en fait. Pas seulement de part en part, mais on pouvait lire des deux côtés. Dans les premières louchot, c'était écrit, et Aseret HaDibrot était écrit. Dans les deuxièmes, elles vont aussi être écrites de la même manière. Mais dans les premières louchot, toute la Torah chez Baal Peh était d'une certaine manière lisible dans la Torah chez Birkat. C'est-à-dire, c'est Aseret HaDibrot, elle ressemble, elle récapitule d'une certaine manière toute la Torah, toutes les mitzvot de la Torah. C'est ce qu'on a vu souvent et on avait rapporté. Donc, Avsaadia Gaon, il a fait tout un travail pour montrer comment toutes les mitzvot pouvaient s'ancrer dans les Aseret HaDibrot. Mais en fait, toute la Torah était lisible dans les lettres qui étaient gravées dans les tablettes des Luchot Rishonot, des premières Luchot. Cette idée-là, on la retrouve. On dit qu'à la fin de sa vie, le Gaon de Vilna, il étudiait la Torah dans un Sefer Torah. Il n'avait pas ni de Gemara, ni d'aucun Sefer. Il n'avait plus besoin. Ça veut dire que il lisait la Torah, et probablement sur chaque lettre, sur chaque, plus que ça peut-être, peut-être même sur chaque silence, lui, il y avait un immeuble de choses, et lui, tout ça était présent. Donc quand il lisait dans ses Sefer Torah, il n'avait pas besoin de regarder dans la Bible, il y avait tout, toute la Torah qui défilait sur chaque lettre, probablement, ou même sur chaque espace blanc de ses Sefer Torah. C'était un peu comme ça sur les Luchot. Quand on lisait les Luchot, on avait toute la Torah écrite et la Torah chez Balpé, sans aucun effort. Tu lis. Il n'y a pas de notion de Amal HaTorah. Bon. L'effort qui est fait pour étudier n'existait pas. Et d'ailleurs, si on avait entendu les paroles, les 10 paroles, jusqu'à la fin de la bouche d'Hachem, l'histoire était terminée. Parce que toute la Torah était intégrée dans chaque lecteur de la Torah. Donc voilà, c'était terminé, c'était fait. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Ils n'ont pas écouté jusqu'au bout. Et du coup, il a fallu leur donner des deuxièmes luchot. Dans les deuxièmes luchot, la partie gravée était la même. Mais quand on lisait pas la Torah chez Balpé. Ça veut dire, le lecteur ne voyait pas tout ce qu'il y avait à lire de Torah chez Balpé sur ce qui était gravé. Et du coup, pour accéder à la Torah chez Balpé, alors il faut travailler, il faut souffrir, il faut vraiment se donner à fond, jour et nuit en fait, si on veut vraiment avancer dans la Torah chez Balpé. Cet effort-là, les Bnei Israël n'en voulaient pas. On ne veut pas. Parce que cette Torah-là, du coup, elle est infinie, c'est jamais terminé, et c'est affreusement difficile. Donc, ils voulaient pas.
Ils sont morts, c'est pas qu'ils pas leur volonté, c'est
Ils auraient pu continuer de supporter. Après, ils ont ressuscité.
oui, parce que c'est Hachem qui les a aidés.
Et ouais, là aussi, Hachem n'a pas dit qu'il ne les aiderait pas.
Oui, mais
Il allait les aider, mais il ne voulait pas.
Adapté, parce que moi j'avais compris là quelque chose, qu'ils ne pouvaient pas leur.
Non, alors, quand c'est marqué Etivu Asher Diberu, qu'ils ont bien parlé, c'est parce que c'était ça leur niveau. Mais, si vous voulez, on peut leur dire exactement ce qu'on a dit aux Goïms. Les Goïms aussi, ils ont dit, mais c'est pas possible, ce que tu nous demandes. que tu nous vends la Torah, mais dans la Torah, il y a à chacun, Hachem a montré ce qu'il y avait dans la Torah qui était absolument inacceptable pour lui. Alors, pourquoi Hachem lui propose si c'est inacceptable? C'est que ça te paraît inacceptable, mais si Hachem te le propose, ça veut dire qu'il va t'aider pour que ce soit possible. Donc là aussi, ça leur paraissait peut-être impossible, mais étant donné que ça vient d'Hachem, alors c'est possible. C'était à eux à savoir que puisque ça vient d'Hachem, c'est donc possible, parce que si Hachem ne propose pas quelque chose qui est impossible, ça n'a pas de sens. Par conséquent, les Bnei Israël n'ont pas accepté, ils ne veulent pas accepter. Mais ce n'était pas possible qu'ils n'acceptent pas, il fallait bien que la Torah soit acceptée. Et les autres peuples ayant refusé, il ne restait plus que les Juifs, en fait. Alors Hachem a fait quelque chose pour eux. Pourquoi il a fait ça pour eux et pas pour les autres? C'est à cause d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Alors, il les a obligés. Comment il les a obligés? Il a pris la montagne et il a retourné la montagne. C'est-à-dire, il a retourné la montagne sur eux. C'est-à-dire, vous voyez, c'est comme un tonneau. Tombé. Grand tonneau. Et il leur a dit, si vous n'acceptez pas la Torah, Shamti Ekvoratrem. C'est pas que la montagne va vous écraser. La montagne, elle est creuse. Mais simplement, ça va définir un horizon duquel vous ne pourrez pas sortir. Votre horizon est définitivement bouché. Et donc, vous allez être comme une mouche que vous avez fait prisonnière dans un ver. Ben, elle va tourner, elle va tourner, puis elle va s'épuiser. Elle n'aura plus de carburant. Elle va arrêter. Elle va mourir. Là aussi, vous allez mourir là. La Torah ouvre l'horizon et vous voulez pas, si vous ne voulez pas ouvrir l'horizon, vous allez mourir. Et du coup, les Bnei Israël, ils n'avaient pas envie de mourir, ils ont accepté, mais ils ont accepté sous la contrainte. Et comme ils ont accepté sous la contrainte, alors, elle rapporte qu'on a dit, en vérité, il y a une annonce que les Bnei Israël pourraient faire, c'est-à-dire ils ont une carte, ils ont un joker. S'ils ne respectent pas la Torah, Hachem leur a fait le reproche, ils vont répondre. On a accepté sous la contrainte, ça vaut rien. On n'a pas accepté, ça veut dire. Les Bnei Israël avaient cette carte. Ils ne l'ont jamais utilisée. Parce que s'ils l'avaient utilisée, ils auraient pu contester la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi tu nous tiens rigueur de la destruction du Beth et ça entraîne la destruction du Beth Amikdash? On n'a accepté que sous la contrainte. Donc ce n'est pas une acceptation. Donc on ne peut pas venir nous faire maintenant un procès parce qu'on n'a pas été à la hauteur. On ne s'était jamais engagé à ça.
Et on ne peut pas dire que c'est précis.
Oui, c'est vrai. Mais ils ne l'ont pas utilisé. Vous avez une carte, un joker. Si vous ne l'utilisez pas, on ne va pas vous l'utiliser pour vous. Et les Bnei Israël, jusqu'à Pourim, ils avaient cette carte. Mais à Pourim, Rachid dit, mais Avatanes. Parce qu'Hachem leur a montré tellement d'amour en leur faisant ce miracle incroyable, ils ont accepté la Torah sans contrainte. Là-dessus, sur cette histoire-là, il y a plusieurs petites questions. En particulier, la question fondamentale, c'est que qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'ils n'ont pas acceptée? Ils avaient dit Naaseh v'nishma. Ils avaient déjà accepté la Torah. Toute la Torah. Kol asher diber Hashem. Toute la Torah, on l'accepte. Alors, c'est quoi cette histoire qu'ils n'ont pas acceptée? C'est qu'en réalité, quand ils ont accepté, il y a plusieurs explications, mais On peut dire, quand ils ont accepté, ils étaient dans un état très, très élevé. C'était quasiment dans les vapes un peu. Donc à ce moment-là, ils ont accepté. Mais cet état-là, on est très haut, ce n'est pas quelque chose qui reste obligatoirement. Il y a des hauts et des bas. Et peut-être que les Bnei Israël, qu'ils ont vu le feu, etc., tout le son et lumière qu'il y avait à Matan Torah, ils ont eu peur. Et donc, du coup, ils ne voulaient plus. Donc, les Bnei Israël agissaient sous la contrainte. Donc, on comprend pourquoi il fallait leur imposer la contrainte, parce que, puisqu'il y avait la contrainte, maintenant, même si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes engagé et il y a la contrainte, on sera obligé de le faire. Alors, à Pourim, ils ont enlevé la contrainte. Maintenant, ils ont accepté la même chose, mais sans contrainte. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils ont réaccepté la Torah? On peut pas accepter. Si on enlève la contrainte, qu'est-ce qui reste? Nasevenishma. Donc, on n'a pas besoin de réaccepter la Torah. Il suffit d'enlever la contrainte et automatiquement, il y a Nasevenishma, c'est qu'on a accepté. Donc, il faut dire ici que il fallait qu'ils acceptent la Torah à la hauteur de ce qu'il y avait pour la contrainte. La contrainte, c'était une façon de dire, il est impossible de vivre sans la Torah. Et donc maintenant, on enlève la contrainte, ils ont accepté. Mais il faut qu'ils acceptent que la Torah est une nécessité. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose de bien. Simplement, mais peut-être on peut faire autrement. On n'a pas le choix. La Torah nous saisit. Alors, on dit oui, on est d'accord. Mais en fait, il reste quand même une acceptation, c'est-à-dire une acceptation de la Torah au niveau pas facultatif qui était celui de Nasé Benishma. Susceptible éventuellement d'être annulé, mais comme quelque chose qu'on accepte volontairement, mais c'est une nécessité. On ne peut pas faire l'économie de cette Kabbalat HaTorah. Le Maharal explique que, vous savez, d'abord il y a la Gemara qui dit, quand ils ont dit Naaseh Venishma, ils ont reçu deux couronnes. Une couronne pour Naaseh, une couronne pour Nishma. De nouveau, maintenant, on a un Naaseh Venishma qui est un avec deux fois un. D'accord? Le fait qu'il y ait une couronne pour Naaseh, une couronne pour Nishma, ça fait, c'est deux fois un plutôt que deux fois une demi. Il y a une acceptation de la Torah qui se dit Naaseh Venishma. Mais Nasé et Nishma sont deux entités 2x1, d'une part. D'autre part, les deux, donc Yom Kippour et Purim, sont deux façons donc d'accepter la Torah. Donc c'est ça le vrai lien qu'il y a entre Kippour et Purim. C'est que c'est deux fois le don de la Torah. Yom Kippour, c'est le don de la Torah chez Birtav. C'était donc. Et Purim, le don de la Torah chez Baalpé. Le fait qu'ils aient reçu deux couronnes, une pour Naaseh, une pour Nishma, et que quand ils ont fait le veau d'or, ils ont perdu la couronne du Naaseh. C'est-à-dire, Nishma, c'est le Sechel qui écoute et qui va raisonner et qui va accepter. Naaseh, c'est ce qui se fait grâce au corps. Et le corps, à Matan Torah, le corps a subi une transformation. Vous vous souvenez, depuis la faute d'Adam Harishon, il y a dans la condition humaine quelque chose que Chazal appelle une zoama, une espèce de saleté inhérente à la condition humaine depuis que Chava a fauté. C'est la trace du Nahash. C'est une trace de la séduction du Nahash, du serpent. Et donc, quand les Bnei Israël sont arrivés au Sinaï, qu'ils ont accepté la Torah, la Zohama s'en est allée. Il n'y avait plus de Zohama. Donc le corps était complètement propre. Et du coup, le corps lui-même voulait faire la volonté d'Hachem. Parce que le corps, il est bien fabriqué selon la volonté d'Hachem. Puisque le corps, il est fabriqué selon la Torah. La Torah, c'est l'expression de la volonté d'Hachem. Donc le corps allait faire la volonté d'Hachem sans être obligatoirement guidé par le Sechel, par l'intelligence, par l'intellect. Quand ils ont fait le veau d'or, le corps a perdu cette autonomie par rapport au Ratzon Hachem pour faire de lui-même, il ne pourra le faire que si le Sechel l'y oblige. Donc là aussi, on a de nouveau le 2 fois 1 qui fait une nouvelle entité, comme dans Marsita Shekel, comme dans Pourim et Kippour, dans Naaseh v'Nishma, on a la même chose. Donc en fait, se demandais pourquoi est-ce que Pourim complète la Kabbalat HaTorah de Yom Kippour et pas celle de Shavuot. Le Gaon dit que à Purim, il y a un Mishté v'Simcha Arbé, beaucoup plus que les autres Yomim Tovim. Pourquoi? Parce que à cause de la Kabbalat HaTorah de Purim et du rattrapage du Mishté qu'on aurait dû faire à Kippour, à la Kabbalat HaTorah de Kippour. Alors, il en faut plus que dans un Yom Tov normal. Mais il y a pas à, on n'a pas à compenser quoi que ce soit à Shavuot. À Shavuot, il y avait Hatzilachem, Hatzilachem. C'est seulement à Kippour qu'il manquait le Hatzilachem, à moitié la fin. Il y a encore une difficulté. Elle vient de la chose suivante. Dans la Torah, il y a une notion qui s'appelle criktiv. C'est-à-dire, il y a des situations dans lesquelles un mot est écrit d'une certaine façon et il est lu d'une autre façon. Un Kabbalah qui nous dit qu'il faut lire autrement. Alors, le Pnei Yehoshua, un des grands commentateurs de la Gemara, il dit que les deux lectures, celle qui correspond à l'écrit, celle qui correspond à l'oral, c'est-à-dire la façon dont on lit, sont considérées comme deux mots. Donc chacun peut être, on peut faire une dracha sur chacun des deux mots. Alors dans la Megillah, on a ce phénomène-là, justement sur le verset qui nous intéresse, un verset qui nous intéresse ici directement. Parce que dans le verset qui dit Kiblou, Imou et Kiblou, les Bnei Israël, ils ont accompli, ils ont fait tenir et ils ont accepté. Le mot Kiblou, il se lit Kiblou, enfin, veut Kiblou, ça veut dire Vav, Kouf, Bet, Lamed, Vav, veut Kiblou, il se lit comme ça. Mais dans l'écriture, il n'y a pas de vav. Le vav final, il n'est pas marqué. C'est Vekibel. Donc, si on lit deux lectures, on a Vekiblou, sur lequel il y a la dracha Kiblou Mashikibukvar, et il y a une deuxième dracha qui est sur le Kibel, qui est un singulier. Mais quel est le singulier? Bien, c'est Moshe. C'est Moshe, qui mou, Moshe, qui belle Moshe. Alors, c'est un peu étonnant, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de qui belle Moshe? Mon cher Rabbeinu a écrit le Sefer Torah à la fin de sa vie. Il a écrit un Sefer Torah et il l'a donné à la tribu de Lévi. Pourquoi il l'a donné à la tribu de Lévi? Pas parce que c'était sa tribu à lui, mais parce que les Lévites sont en charge d'enseigner la Torah. Comme vous savez, la tribu de Lévi, elle n'a pas reçu de terre, de terrain, pour qu'elle soit entièrement disponible pour le service d'Hachem. Et par service d'Hachem, on n'entend pas seulement ce qui tourne autour du Beth Amikdash, mais surtout l'étude et l'enseignement de la Torah. Donc c'est normal que Moshe dépose le Sefer Torah à partir duquel on va enseigner, là où se trouve le laboratoire de l'enseignement, c'est-à-dire la tribu de Lévi. Mais ça ne s'est pas passé comme il croyait. Les Bnei Israël n'ont pas du tout accepté ça. Toutes les tribus ont réclamé un Sefer Torah. Et Moshe Rabbeinu a dû écrire un Sefer Torah pour chaque tribu. En plus du Sefer Torah qu'on a mis dans le Haron, comme vous savez, dans le Haron HaKodesh, dans le Haron de Beth Amikdash, d'abord du Mishkan, il y avait les Louchot, les deux tables de la loi, les nouvelles, il y avait les brisures des anciennes, et il y avait un Sefer Torah. Pourquoi est-ce que les tribus ne voulaient pas que la tribu de Lévi soit la seule à avoir un Sefer Torah? Parce qu'ils craignaient qu'il se passe dans ce cas-là ce qui s'est passé, ce qui se passe dans toutes les églises, dans toutes les religions, où les prêtres ont l'exclusivité de l'interprétation des textes sacrés, et où les fidèles en général n'ont même pas accès à ces textes. Par conséquent, ils pensaient que les Bnei Israël vont étudier la Torah, les Bnei Lévi, pardon, vont étudier la Torah, et en fonction de ce qu'ils auront compris, eux, ils vont fabriquer la halacha, par exemple, et aux Bnei Israël, aux autres, ils diront, voilà, la halacha, elle est comme ci, comme ça. Point barre. Et ça, ils n'en voulaient pas. Ils voulaient avoir la possibilité, eux aussi, d'étudier la Torah et d'en déduire des halakhot à leur manière. Yori. Et là-dessus, ils ont gagné. Alors, en réalité, normalement, les Bnei Israël auraient dû tous recevoir la Torah. S'ils avaient entendu jusqu'au bout les paroles d'Hachem, tout le monde aurait été à égalité. Mais comme ils n'ont pas voulu, ils ont mis Moshe Rabbeinu en position d'être le seul à recevoir la Torah. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï pour apprendre la Torah. Et Hachem lui a enseigné ce qu'il devait enseigner. Après, c'était libre à lui de l'enseigner ou pas l'enseigner. On dit qu'il y a des choses que Moshe n'a pas enseignées. Parce qu'il avait besoin de le savoir pour lui, mais ce n'était pas nécessaire que les Israël le sache. Et donc, effectivement, c'est lui qui a reçu la Torah, mais par générosité, il l'a donnée à tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde peut aller étudier la Torah. On n'a pas besoin d'être un Lévi pour pouvoir aller étudier la Torah. Tout le monde peut produire la Torah. La Torah, elle est, comme on dit, il y a des mounachas de Keren Zavit, que tout celui qui veut, il peut venir la prendre.
Ah, c'est
Bon.
pas sur accepter par les autres.
Je veux pas dire que.
Mais j'apporte pourquoi elles sont plus ou moins acceptées, elles sont discutées.
Ah ben, tout est toujours discuté. Mais y compris dans une même tribu, il n'y a pas de raison que obligatoirement les gens soient tous d'accord. Ils vont pas. Chacun peut interpréter la Torah à sa manière, et ensuite il faut se confronter avec les autres. C'est de la discussion où effectivement la discussion et les objections elles sont souvent très très vives. Dans Hazal, ils peuvent être assez durs les uns avec les autres, même des fois quand sur certaines choses, ça tient pas debout. Bien. Et c'est déjà ce que les rédacteurs ont écrit. Ça veut dire que c'est déjà censuré, quoi, probablement. On n'a pas tout écrit. Donc ce Pessah, si vous voulez, pardon, ce Pourim, j'ai sauté un peu, cette fête de Pourim, essentiellement, c'est une fête non pas de... On ne fait pas spécialement la Géoula, pas seulement la Géoula, en fait. Matan Torah, après ça. Ce que la dimension de Matan Torah est fondamentale, joue un rôle fondamental. Il y a quelque chose dont j'ai encore rien dit, mais qui est que C'est sûr que il y a un problème avec avec cet exil de Madaï dans lequel les Bnei Israël risquent leur peau. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas affaire ici seulement à Madaï. En réalité, le grand problème, parce que c'est un problème qui dépasse largement même l'exil de Madaï, le problème, c'est Amalek. Problème, c'est Amalek parce que d'abord, c'est un peu surprenant que le grand vizir chez les Perses, ce soit Aman. Parce qu'Aman, Aman, c'est Amalek. Et Amalek, c'est un sémite. Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. Or, les Perses, ce n'est pas des Sémites. Les Mèdes non plus. Tous ces gens-là ne sont pas des Sémites. Comment ça se fait que le chef de la noblesse, Mède, Perse, ouais, soit quelqu'un d'Amalek, alors qu'on est en Perse? Ça veut dire qu'Amalek peut entrer partout. D'après Chazal, Achashverosh, c'est aussi une grande crapule. Ahasvéroch, lui aussi, qui veut détruire les Bnei Israël. Mais il n'en a pas la force ou le courage. Donc, il va utiliser Amalek. Il va utiliser Aman. Et Aman, et donc, pour ça, il faut qu'il lui donne beaucoup de pouvoir. Et le pouvoir que Achashverosh donne au grand vizir, il est énorme parce que il leur donne son sceau. Donc tous les décrets d'Aman sont signés à Achashverosh. Et par la suite, quand c'est Mordechai qui va devenir le grand vizir, lui aussi il aura le sceau. Donc Mordechai aussi va signer à Achashverosh. Et le fait de signer à Achashverosh, ça a failli coûter très 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 cher. J'ai déjà raconté plusieurs fois que au deuxième pot où Esther avait invité Achashverosh et Aman, quand Achashverosh lui a demandé qu'est-ce que tu veux à Esther, que je te donne la moitié de mon royaume, elle lui a dit, écoute, si ce n'était pas si grave, je n'aurais pas dérangé le. Mais il y a quelqu'un qui veut me tuer, qui veut tuer ma famille, qui veut tuer mon peuple. Ah, je vais Roche. Je n'ai jamais compris, je ne suis pas sûr. Est-ce que Roche, il ne sait pas ou il fait comme s'il ne savait pas? Mais il demande, mi où c'est, où? Qui est ce triste personnage-là qui veut te tuer, qui veut tuer ma reine, qui veut détruire une partie de mon peuple? Et comme vous savez, comme moi, expliqué plusieurs fois, Esther, à ce moment-là, elle pointe le doigt en direction de qui? En direction d'Achashverosh. Pourquoi direction d'Achashverosh? Parce que les décrets sont signés à Achashverosh. Tous les décrets d'Aman et tous les décrets antisémites d'Aman sont signés à Achashverosh. Donc Esther, elle a parfaitement raison de pointer à Achashverosh. Mais si, alors comme vous savez, ça ne s'est pas passé comme ça, Hazal disent que le malheur Gabriel est venu et il a bougé son doigt. Et il a pointé son doigt sur Aman. Mais si vous voulez faire un peu d'histoire fiction, vous pouvez essayer de réfléchir à ce qui serait passé si le doigt était resté sur Achashverosh. Achashverosh ayant dit que c'était un scandale, Aman l'aurait tué. Non, il avait un prétexte pour tuer. Aman, ça fait longtemps qu'il veut le trône de Ahasvéros. Si maintenant Ahasvéros, il détruit une partie du peuple, il menace la reine, etc., alors Aman, il va venir sauver tout le monde. Il va tuer Ahasvéros. Ça, c'est peut-être pas si terrible, c'est probablement pas une grande perte pour l'humanité. Mais le problème, c'est qu'alors, Aman, il sait qu'Esther est juive. Il sait maintenant, parce qu'elle lui a dit. Elle a dit. Qui est-ce qui veut détruire son peuple, mon peuple? Mon peuple, c'est mon peuple juif. Donc, elle a fait son coming out comme juive. Vous imaginez? Aman, il a à portée de main la reine, il a tué le roi, il peut tuer la reine et tuer tous les juifs. Rien que ça. Ça, c'est si Hachem n'avait pas ordonné à Gabriel de bouger le doigt d'Esther. Ce que je dis d'ordinaire, c'est que personne ne sait, enfin, avant que je vous le dise, personne ne sait qu'Esther s'était trompée. Savent pas. Enfin, c'est écrit dans le Midrash. Le Midrash, je le sais. Mais, donc on ne sait pas. Mais Esther, en tout cas, au fond d'elle-même, elle sait que finalement, elle n'a pas tellement sauvé le peuple juif. Hein. Elle a joué toutes les cartes qu'il fallait jouer, mais ultimement, c'est Hachem qui a sauvé le peuple. Elle n'est même pas, je dirais, complètement l'artisan, puisque même bouger son bras, elle n'a pas pu le faire toute seule. T'entends? Montrer du doigt exactement Aman plutôt qu'Achashverosh, elle ne l'a pas fait toute seule. En tout cas, ça devrait préserver Esther de tout orgueil. Elle ne peut pas se raconter « j'ai sauvé le peuple juif ». Parce que sinon, c'est vrai qu'elle pourrait se raconter « j'ai sauvé le peuple juif ». Mais là, elle ne peut pas. Pas se raconter ça. Alors, il y a eu, dans l'histoire d'Esther, dans la Megillah, il y a deux époques. Il y a Esther soumise, et puis il y a Esther régnant. À partir du moment où Mordechai lui a dit, surtout ne t'imagine pas que tu pourrais être sauvée toi toute seule, que nous, on va être tous perdus. Ça ne se passera pas comme ça. Et du coup, elle a pris les choses en main. Et à ce moment-là, c'est elle qui donne des ordres. C'est Esther qui donne des ordres et Mordechai qui obéit. Donc, il y a deux moitiés, enfin deux parties dans la Megillat Esther. Une partie où Esther est une pauvre fille, quoi, qui visiblement comprend pas ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, elle n'est pas la seule à rien comprendre. Personne ne comprend ce qui se passe. Quelle était la probabilité que Ahasvéros choisisse Esther? Parce que là-dessus aussi, il y a une marloquette. Il y a une marloquette qu'ils disent. En vérité, il y a un Midrash qui dit le contraire de ce que disent beaucoup de gens. Ils disent que Esther, en fait, elle s'appelait Hadassah. Et c'est le Midrash dit, c'est les Goïms qui l'ont appelée Esther, parce que Eshtar, ça veut dire, Eshtar, c'est belle comme la lune. Comme elle était tellement belle, les Goïms l'ont appelée Esther. Esther, c'est pas son nom. Alors, C'est un drôle de midrash parce que c'est les goyim qui lui ont donné le nom d'Esther. Et son nom d'Esther, c'est lui qui fait référence au Esther Panim, à la situation d'Esther Panim qui est dans. Donc ça veut dire que les goyim ont choisi de lui donner un nom qui est un nom perse. Il n'y a rien à voir avec Esther Panim, mais sans le savoir, d'après ça, ils ont dit quelque chose de fondamental. On va demander Esther Minaïm. Parce que quand Chazal demande Esther Minaïm, où est-ce qu'on sait Esther Minaïm la Torah? Où est-ce qu'on trouve Esther dans la Torah? La question qui se pose, c'est, ma pitonne, pourquoi on pose cette question? Est-ce qu'on demande sur chaque nom de l'histoire juive, on va demander où ça se trouve dans la Torah? Mais comme avec Esther, il se passe ce miracle qui est un miracle tout à fait inattendu. Parce que une des raisons, vous savez probablement que la Gemara, elle demande pourquoi on ne dit pas Hallel à Pourim. C'est une des raisons qu'on invoque, c'est de dire que on ne fait pas Hallel sur un Nes qui a eu lieu en Houtzlaret, en dehors des Rets Israël. Mais en même temps, on dit que des Nissim en Eretz Israël, c'est normal. Et des Nissim en Houtz Laharetz, c'est tout à fait anormal. C'est pour ça qu'on demande Esther Minaïm. Ce personnage d'Esther qui joue un rôle absolument incroyable, miraculeux, comment il peut être dans la Torah si il se passe un miracle et les miracles, ils n'ont pas lieu en dehors des Eretz Israël. C'est pour ça qu'on cherche. Et on dit, oui, mais c'est, il y a un miracle dans le Esther Panim. Donc c'est un super miracle. Parce que le miracle de Pessah, de Yetziat Mitzrayim, c'est au vu et au su de tout le monde, là, quand beaucoup apparaît. C'est en pleine lumière. Mais là, le miracle, il apparaît de façon complètement cachée. Et il prend même le vêtement de une chose banale. Si nous, on n'était pas là à raconter qu'il y a eu un miracle, on peut lire l'histoire d'Esther comme une histoire qui a lieu dans n'importe quelle république bananière, où il y a deux clans qui s'affrontent, et un clan qui met une des femmes dans le lit du roi et qui gagne. C'est pas. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Surtout, il n'y a pas de quoi en faire un livre qu'il faut mettre dans le canon biblique. Et pourtant, Esther, elle a exigé qu'on la mette dans le canon biblique. Ce n'est pas pour qu'on l'oublie pas. On ne l'a pas empêché d'écrire le Megillat Esther. On va lire la Megillat Esther tous les jours, mais toutes les années. Mais pourquoi il faut que ça soit dans le canon biblique? Surtout que ça va nous faire des ennuis, les goyim, ils vont voir, on a quoi, on a tué 75 000, là, ils sont fous, là, ces juifs, ils tuent des goyim. Tuent des juifs, c'est normal, mais qu'on tue des goyim, où ça va? Où est-ce qu'on va, là? Que les frères lui ont dit, elle a tellement insisté, pas pourquoi ils ont cédé. Ils ont trouvé un passouk, finalement. Ça leur a permis de l'écrire quand même. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi c'est dedans. C'est pour montrer qu'Hachem, même en galoute, même dans les moments les plus noirs, Hachem s'occupe de nous. Ça, c'est fondamental comme encouragement pour les situations. Ah. Ah. Voilà, on s'arrêtait là.